Tourangelle, Tourangeau, vous écoutez Radio Campus Tour, bienvenue sur Littératour, l'émission qui vous fait découvrir les librairies indépendantes de notre belle ville ligérienne. Venez avec moi et osez pousser les portes de ces univers merveilleux. Petit erratum, chers auditeurs, cette interview a été tournée avant la période du confinement. Nous sommes à la boîte à livres grâce à Monsieur Afkin. Bonjour Monsieur Afkin.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans vos locaux. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est la boîte à livres ?
Mais la boîte à livres, c'est une boîte, justement, qui a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la guerre et de la destruction du centre-ville, puisqu'à l'époque, on a mis des baraquements en bois pour que les commerçants puissent continuer. C'était devant la gare et boulevard Horteloup.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'historique de la boîte à livres ?
Donc c'est une petite boîte, d'où on imagine une petite maison en bois avec un tuyau pour le poêle. Donc c'était, je connais pas vraiment la superficie, mais c'était peut-être 30 mètres carrés, quoi. Voilà, c'était tout petit. Et c'est une femme, qui s'appelait Madame Vanson, qui avait perdu son compagnon, d'ailleurs, pendant la guerre, qui s'est installée à Tours, qui a monté cette boîte à livres. Cette boîte à livres a dû attendre que les baraquements en bois se transforment en commerce, puisque c'était en reconstruction. Elle a repris un commerce rue des Halles. De la rue des Halles, c'est rajouté une autre boutique juste à côté. Et cette personne a tenu la librairie, la boîte à livres, pendant 40 ans. Et alors justement, il faut peut-être revenir sur l'installation de ce baraquement, puisque le centre-ville détruit, et comment s'est construit et comment s'est agrandi cette librairie. Parce que au sortir de la guerre, peut-être que les premiers qui ont vraiment soutenu cette librairie, ce sont les enseignants, professeurs de lettres, de philosophie, etc., de Descartes, de Balzac, qui ont indiqué à leurs élèves d'aller chercher leurs livres dans cette boîte à livres, enfin, etc. C'est vraiment ça qui a fait la bonne marche, quoi, de la librairie.
C'est ce réseau d'entraide qui a permis...
Ouais, c'est un vrai réseau d'entraide, voilà, tout à fait. Puis des affinités, parce que Madame Vanson était amie avec des... Par exemple, le grand-père de Jeanne Balibar, qui était professeur de philosophie à Descartes. Enfin, il y a comme ça des affinités avec d'autres professeurs. Et puis, dans les années 60, s'est construit la faculté des tanneurs, voilà, Rabelais, qui a donné aussi un essor à la librairie, etc. On est quand même dans une période après-guerre en plein essor. Et puis, en 1986, ma compagne Marceline Langlois-Berthelot, qui est libraire, a été libraire à Paris, elle a 27 ans, et il se trouve que le ministère de la Culture cautionne des jeunes libraires de moins de 30 ans auprès des banques pour pouvoir acheter des librairies. Comme ça qu'elle arrive à Tours et qu'elle rachète cette librairie. Et comme c'est une bâtisseuse, très vite, elle s'est étendue au rez-de-chaussée, mais elle va descendre dans les caves, elle va pousser les caves et aménager un rayon scolaire, il n'y en avait pas, le rayon sciences humaines, le rayon philosophie, etc. Donc, ça s'agrandit.
Oui, parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas la boîte à livres, en fait, cette librairie s'étend sur un étage et deux sous-sols.
Alors, on va y venir. On y vient. Donc, en 98, on a quitté la rue des Halles parce que ça devenait trop petit. Et puis, il fallait inventer autre chose. Donc, on a eu l'opportunité d'acheter le bail, un bail de 500 mètres carrés. Et puis, en 2002, on a racheté les 500 autres mètres carrés, ce qui nous fait presque 1000 mètres carrés de surface commerciale.
Donc, ici, en haut de la rue Nationale.
Voilà. Et c'était un quartier qui était assez délaissé. Le haut de la rue Nationale. Et puis, il y a eu notre installation, il y a eu l'installation de Nature et Découverte qui a créé un mouvement, voilà, dans les années 2000, plus important. Et donc, quand on s'est installé, on est arrivé de la rue des Halles, on était 7. Moi, j'étais dans la bande. 2002, quand on s'est agrandi. Alors, de 7, on est passé à 14 pour arriver ici. Et puis, depuis 2002, on a été 35, 33. Et oui, parce qu'il y a 19 libraires, au jour d'aujourd'hui, il y a 19 libraires. Il y a quelqu'un qui est là pour les collectivités, tout ce qui est achat de lycées, de bibliothèques, médiathèques, entreprises, etc. Ben, il y a des gens au stock, parce que fini le temps d'aller chercher à Paris, heureusement, nous sommes livrés tous les jours. Des fois, on a plus de 5 palettes d'arrivage le matin, donc 2 personnes et demie, on va dire.
Ils sont dédiés au stockage et au déchargement des palettes.
Tout à fait, c'est-à-dire que Il décharge, il rentre tous les livres dans le stock et après c'est dispatché dans des caisses sur roulettes pour les libraires qui viennent les chercher et qui vont les mettre dans leur rayon.
Voilà. Donc chaque libraire a sa spécialité ?
Oui, bien sûr. Vous parliez de plusieurs espaces. Il y a le rez-de-chaussée où il y a 4 libraires et le rayon littérature française, littérature étrangère, la poésie, le théâtre, le polar et la BD. Premier étage, on a la vie pratique et la jeunesse, et là il y a 4 libraires. C'est le dernier agrandissement qu'on ait fait en 2006, c'est la jeunesse. Mais il y a aussi les personnes qui sont en caisse, les personnes qui sont à l'accueil, les personnes qui sont à la comptabilité. J'ai parlé des gens qui étaient au stock, mais aussi j'ai 2 assistantes qui travaillent avec moi. Parce que inviter des auteurs, évidemment, on n'appuie pas sur un bouton, il faut être en contact constant avec les éditeurs, etc. Il y a le salon de thé.
Ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, voilà. C'est qu'on peut aussi déguster des cookies et boire du thé.
Et manger le midi au milieu des livres, voilà, tout à fait. Ce qui crée une animation, et puis on peut venir l'après-midi et des gens jouent au Scrabble, se donnent rendez-vous, les étudiants viennent y travailler. C'est un lieu vivant. Et puis au premier sous-sol, c'est les beaux-arts et le tourisme. Et le deuxième sous-sol, c'est le rayon universitaire, c'est-à-dire scolaire, droit, histoire, géographie, philosophie, psychanalyse, enfin, etc., etc. Sciences humaines, bien sûr. 3 niveaux, 4 espaces. Et donc, ce lieu vit tous les jours, 6 jours sur 7. Par exemple, quand on s'est installé ici, on a mis des canapés. Ça nous était important aussi que les gens puissent se poser, consulter les livres. Bon, des fois, on est obligé de dire à certains clients, on n'est pas dans une bibliothèque, ou etc., mais
créer une ambiance.
Ouais, que les gens s'y sentent bien. Et c'est important à tous les détails, la librairie soit accueillante. On propose des animations avec des auteurs, en général 2 rencontres par semaine, et des dédicaces. On peut aller voir le programme des rencontres sur le site de la boîte à livres, www.boitealivre.com.
N'ayez pas peur, tout type d'auteurs viennent, entre le polar oui. et les classiques, il voilà. y en a pour tous les goûts.
Voilà, voilà, la BD aussi, enfin, voilà. Et puis on a des expositions qui tournent tous les 2 mois. Ça dure 2 mois parce qu'on n'est pas non plus une galerie, le temps que ça s'installe. Les gens ne regardent pas forcément au-dessus des rayons, mais c'est quand même assez grand. C'est le rez-de-chaussée surtout qui est grand et qui permet d'accrocher même des grandes toiles.
Et donc, dans l'ensemble de ces 1000 mètres carrés, vous avez à peu près combien de références ?
En moyenne, en ce moment, 85 000 références. À Noël, c'est là, évidemment, où on a le plus de références. C'est 110 000. Donc, ça va entre 85 et 110 000 pendant l'année.
Comment vous faites dans ces milliers de références pour choisir les livres ?
Déjà, chaque mois, des représentants ou des maisons d'édition ou des diffuseurs. Diffuseurs, ça veut dire qu'ils regroupent plusieurs éditeurs viennent rencontrer les libraires et leur parlent des nouveautés, de ce qui va sortir, du plus connu au moins connu. Dans une librairie de notre catégorie, on pourrait très bien avoir un acheteur et les représentants voir l'acheteur. Mais nous, on a toujours considéré que l'achat faisait partie du métier de libraire. Et donc, ce sont les libraires qui reçoivent les représentants et choisissent. Et moi, je regarde après leur choix.
Donc, voilà. Vous avez un droit de veto sur leurs acquis.
J'ai un droit, mais je dis...
Globalement, vous êtes d'accord.
Ouais, voilà.
Je ne sais pas si les auditeurs ont regardé votre site internet, mais vous faites aussi du commerce en ligne.
Exact. C'est-à-dire qu'il a fallu réagir par rapport à des grands groupes, on va dire. On s'est groupé, en fait, ce n'est pas nous seuls la boîte à livres. On s'est groupé avec 2 associations de libraires. Libraire.fr et Place des Libraires, pour justement être sur une plateforme et proposer nos références. Fait qu'il y a sur ces plateformes plus de 1 million de références. Et que dans ces 1 million de références, si on cherche un titre, un auteur, un éditeur, il est indiqué où, qui, quel est le libraire qui a ce livre. Donc l'internaute peut commander ce livre à un tel ou un tel. Ça peut être à Rennes, ça peut être à Brest, ça peut être à Tours. Voilà, on fonctionne comme ça. Et puis on a l'autre système de fonctionnement par Internet. Ce sont nos clients qui vont commander directement à la boîte à livres, soit en faisant mettre de côté leur livre, ce qui leur coûte pas plus cher que d'acheter le livre en magasin. On a aussi une carte de fidélité. Les étudiants, sur présentation d'une carte, ont 5% de remise automatiquement dans toute la France. Tout le monde ne le sait pas, et tous les enseignants aussi. On a vécu là 3 années un peu difficiles, crise économique, de contestation. Mais depuis 1 an... On a le sentiment que les gens reviennent plus vers la librairie. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être tout nouveau, tout beau, Internet, le grand A et le grand B, je sais pas quoi. Ah, fastoche, je commande de chez moi et je suis dans mon bain et je commande, voilà. Et en fait, les gens reviennent et puis il y a une résistance. Et ils ont besoin de l'humain. Ils ont besoin, non seulement, je voudrais pas trop jouer sur le fait d'être conseillé et tout ça, mais ils ont besoin d'être dans un lieu où des gens évoluent. Et vous savez, moi je dis, tant que je vois des parents et des enfants échanger sur les livres dans les rayons, l'avenir de la librairie, elle est longue, enfin elle est vivante. Bon, le jour où il y aura plus d'enfants comme dans le joueur de flûte de Hamelin et qui embarque tout le monde, ça aurait pu être un peu ça. On a eu peur un peu justement que
avec la recrudescence des supports numériques, par
voilà,
exemple.
Voilà, ben c'est ça, bien sûr. Numérique. Je crois qu'il y a eu aussi ce lancement de tablettes et tout. Alors il y a un modus, les gens aiment bien prendre des tablettes quand ils voyagent parce que ils embarquent moins de livres. Et en même temps, le restant de l'année, ils lisent des livres papier. Mais là, en tout cas, l'année qui vient de passer nous donne un peu de baume au cœur parce que ça va mieux, les gens reviennent plus vers nous.
Maintenant que nous avons découvert la riche histoire ainsi que la géographie de la librairie, accordons-nous une petite pause musicale avec la chanson « Kiss You Goodbye » d'un talentueux artiste tourangeau, Blue Bear.
In shame, hearing the voices would be strange. But if only I could go back in time, just to kiss you goodbye. If I could only try, with you by my side.
pour les auditeurs qui rêvent de travailler dans une librairie, qu'est-ce que vous leur diriez ?
C'est la connaissance, c'est d'avoir aimé lire, connaître des livres, pas tous les livres forcément, mais avoir être curieux. Je crois que c'est le principal, c'est être curieux, avoir envie de découvrir, avoir envie de lire et avoir envie d'échanger avec le lecteur qui vient à vous, le public qui va faire des recherches. Quelqu'un peut très bien rentrer dans la librairie sans savoir ce qu'il cherche, ce qu'il va acheter. Il faut aussi être à l'écoute de la personne. Qu'est-ce que vous voulez ? Vers où je vais vous guider ? Finalement, c'est peut-être pas en littérature que vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est peut-être en développement de soi ou en sciences humaines. Donc, il faut être à l'écoute de l'autre. Tout le monde ne sait pas le faire. Que je conseille aussi qu'à des jeunes, c'est de faire une formation. Il y a des formations en apprentissage de 2 ans. Ça veut dire 1 semaine en librairie, 3 semaines en école d'apprentissage. Il y a l'école de Laval qui fait une licence de libraire, et ce qui est pas mal du tout. Et puis, il y a l'INFL à Montreuil qui propose un brevet de libraire. Et on a, depuis très longtemps, on a toujours 2 apprentis libraires qui restent 2 ans. Et c'est pas... on peut avoir envie, mais c'est dans tous les métiers. Vous savez, je parlais du théâtre tout à l'heure. On peut être ado, rêver de faire du théâtre, et puis rentrer dans ce métier, et puis s'apercevoir que c'est pas du tout pour soi. Mais c'est bien d'essayer aussi.
Et c'est ça, la relation à l'humain qui est très importante.
La relation à l'humain est très importante, parce que la porte est ouverte à la librairie, et rentre qui veut... et vient vers vous qui veut. Donc, avec justement des interrogations, des questions. Je ne vais pas très bien en ce moment, j'aurais un roman qui me fasse voyager, ou je cherche tel thème en philosophie, etc. Quoi.
De la question la plus simple, la plus vague à la plus pointue.
Voilà, tout à fait.
Tout trouve sa réponse à la boîte à livres. Vous nous aviez expliqué en début d'interview que vous faisiez partie de la petite troupe qui s'est installée rue Nationale.
Oui.
Mais du coup, vous, votre métier à la base, c'est libraire ?
Non. En fait, je suis rentré à la librairie par le biais des rencontres, des animations, l'encadrement du personnel, etc. Il y a d'autres fonctions qui se sont créées, si je puis dire. Mais en fait, mon métier, le premier, c'est le théâtre. J'étais dans le théâtre pendant 15 ans, à Paris.
Comédien, metteur en scène ?
Comédien, beaucoup assistant à la mise en scène et metteur en scène. J'ai appartenu à des troupes de théâtre pas mal. Justement, j'en avais un peu assez au bout d'un moment, au bout de ces 15 années-là, de la précarité de ce métier.
De cette vie d'intermittent.
Ouais, voilà, tout à fait. Bon, j'ai fait d'autres choses, j'ai dans des films, etc. Et puis en fait, quand j'ai arrêté, j'étais directeur de centre de formation près de Paris, à Sarcelles. En me servant du théâtre, j'ai animé des groupes et avec le théâtre, faisant des ateliers d'écriture, montant des spectacles avec eux, avec des gens qui n'étaient même pas venus là pour faire du théâtre. Enfin, voilà. Mais c'était des vraies expériences de vie.
Personnellement, vous avez encore le temps et le plaisir de lire ?
Bien sûr.
Et c'est quoi votre livre de chevet en ce moment ?
Mon livre de chevet, c'est le livre de Stéphane Audeguy, c'est chez Gallimard. C'est aussi, moi j'ai toujours plusieurs livres en chantier. Je viens de lire le dernier livre de Gérard Mordilla. J'ai toujours des... Il y en a, c'est des petits cailloux, moi c'est des livres... Alors, c'est peut-être plus de la littérature, ce que je lis, que des sciences humaines, mais ça dépend. Giorgio Agamben, par exemple, qui est un philosophe italien, m'intéresse. Le dernier Comte-Sponville, je l'ai lu. Le cahier de Lerne qui vient de sortir sur Comte-Sponville aussi. Voilà, mais enfin, principalement, quand même, ce sont des romans. Parce que aussi, bien sûr, on fait des rencontres. Je mène des rencontres moi-même. J'ai mené celle de Blandine de Cône. Personne ne m'a demandé de le faire, mais... Pour Blandine de Cône, par exemple, je suis allé relire le livre de John Didion. Donc voilà, je veux dire, c'est parce que je me suis souvenu de la lecture du John Didion qu'il y avait une similarité avec le livre de Blandine de Cône sur le deuil. Quand j'en ai parlé avec Blandine de Cône, elle l'avait lu, évidemment, et c'est un livre qu'elle a aimé. Ce qui est intéressant aussi, mener des rencontres, c'est pas juste lire le livre et en faire le résumé, non. C'est susciter des questions pour mettre en avant l'auteur. Mais parfois, c'est intéressant d'aller chercher d'autres littératures pour animer le débat, quoi. Parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où vient un auteur et qu'est-ce qui l'a nourri, lui. Quels sont les auteurs qui l'ont nourri pour en venir à tel ou tel livre. On est lié au livre. C'est-à-dire, un écrivain, c'est très rare que j'entende qu'un écrivain n'ait jamais rien lu de sa vie et se mette à écrire un chef-d'œuvre. On est tous reliés par des thèmes, par des livres.
Que ça soit nos lectures obligatoires à l'école, voilà. Nos lectures personnelles.
Voilà, parce que vous dites les lectures obligatoires, mais je pense que certaines lectures obligatoires à l'école ont été des révélations pour un lecteur adolescent ou enfant l'a entraîné vers un chemin de lecture, justement.
Par exemple, vous en auriez un livre que vous avez lu enfant et qui vous est resté?
Alors moi, il y en a un, ouais, le premier qui me vient comme ça, c'est Mermoz de Joseph Kessel. En fait, je dirais qu'il m'a amené vraiment à la lecture. Bon, bien que j'avais lu d'autres choses à l'école, etc.
C'est
le
premier qui
m'a
accroché.
C'est vraiment le premier qui m'a accroché. Ouais. J'avais 12 ans. Quoi.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans le futur à la boîte à livres? Et qu'est-ce qu'on peut découvrir?
Mais, souhaiter continuer.
Oui, aussi longtemps que ça s'est créé.
Voilà, l'année prochaine, on fête les 75 ans.
Est-ce qu'il y aura des événements
oui.
qui sont prévus?
Oui, oui, bien sûr.
On pourra être tenu au courant sur les sites internet de la boîte à livres?
Bah oui, parce qu'on a un site, www.boîtealivres.com, bien sûr, mais on y pense.
C'est en
voilà. Et je pense que ce sera pour le printemps prochain.
On rappelle l'adresse de la boîte à livres?
19 rue Nationale.
Et on
à
peut
Tours.
Y venir?
Du lundi au samedi. Le lundi, c'est de 11h à 19h, et tous les autres jours de la semaine, c'est de 10h à 19h.
Merci beaucoup, Monsieur Afkin, pour cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et je vous invite, chers auditeurs, à vous presser dans les rayons très bien achalandés de la boîte à livres. Voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur la librairie. Et j'espère que la prochaine fois que vous serez rue Nationale, votre curiosité l'emportera. Pour terminer cet épisode, je vous propose la très courte interview que Blandine Decaune m'a gentiment accordée lorsqu'elle est venue présenter son livre, La Mère Morte. Bonjour Madame Decaune, merci de répondre aux quelques questions de Radio Campus.
Bonjour.
Merci déjà pour votre livre, La Mère Morte. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça contient, La Mère Morte?
La Mère Morte, c'est à la fois ma mère, qui était Benoîte Groult, une féministe et une écrivaine connue, qui malheureusement a eu la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que, voilà, elle a perdu la tête. Donc, elle était morte déjà en étant encore vivante, mais elle allait mourir. Et puis, il se trouve que 3 mois avant sa mort à elle, j'ai perdu ma fille unique dans un accident de voiture. Et donc, le titre que j'avais déjà choisi, mais a pris un double sens auquel je n'avais évidemment pas pensé. Et voilà, donc, la mère morte, c'est la mère en moi qui est morte et ma mère qui est morte.
C'est ce qu'on voit dans votre récit, c'est l'amour d'une mère pour sa fille et l'amour d'une fille pour sa mère.
Oui, dans les deux sens.
Vous disiez que vous aviez déjà réfléchi au titre, c'est-à-dire que vous aviez prévu d'écrire ce livre depuis longtemps déjà?
Oui, 2-3 ans, quand maman a commencé à un peu perdre la tête, je me suis dit... Elle a écrit sur tous les épisodes de sa vie, aussi bien par la fiction que par l'autobiographie. Donc, elle aurait aimé qu'il y ait le dernier chapitre de sa vie, mais elle ne pouvait pas l'écrire, évidemment. Donc, je me suis dit, c'est moi qui vais le faire pour elle.
C'est un très beau cadeau que vous
lui offrez. Oui, je voulais vraiment le faire comme un cadeau. Et j'ai pensé à ce titre, oui. Et je me suis dit, c'est un beau titre et qui décrit bien ce qu'il en est.
Est-ce que ce livre était pour vous un exutoire face à ces drames que vous avez connus?
Un exutoire, peut-être pas. C'était d'abord une nécessité absolue. Il fallait que je l'écrive. Même si c'était très douloureux, parce qu'il a fallu que je replonge dans tous ces moments si difficiles. Mais j'avais besoin de le faire aussi comme une sorte de tombeau littéraire que je leur offrais à toutes les deux. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient de je ne sais pas qui, d'ailleurs je crois de l'antiquité égyptienne. On meurt 2 fois, la première physiquement, la seconde quand plus personne ne prononce votre nom.
Avec ce merveilleux cadeau, vous êtes sûr que personne ne sera oublié dans votre famille? Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez que vos lecteurs ressortent de ce récit?
Oui, ça se termine par une note d'espoir et sur l'amour de la vie. Je pense que, en tout cas pour moi, la vie est plus forte que tout, malgré tout, et qu'elle vaut la peine d'être vécue, malgré les épreuves, malgré les deuils, malgré les chagrins. Et c'est un hymne à la vie, finalement, paradoxalement.
Absolument. Quand on vous lit, on voit bien que c'est l'amour qui ressort à travers tout. Vous avez dédié votre livre à Zélie, votre petite fille. Est-ce qu'elle l'a lu?
Elle en a lu la moitié pour l'instant, et elle avait lu avant la sortie du livre, elle me l'avait demandé, les passages qui la concernent. Et elle m'avait dit, bon, c'est bien, c'est
alors,
bien.
Alors d'accord, elle avait donné son approbation.
Oui, absolument.
Est-ce que vous pourriez me faire l'honneur de lire un chapitre ou un paragraphe que vous préférez dans votre ouvrage?
Je préfère, c'est difficile. On va essayer. Maman a toujours été dans le déni de ce qui la dérangeait. Cela lui a réussi longtemps, mais j'ai l'impression que ça l'a empêchée de vivre sereinement sa vieillesse. autant que faire se peut en tout cas. Elle n'a jamais su ni voulu s'adapter, abandonner le ski, le vélo, la pêche, des deuils insurmontables, et elle a usé ses forces dans un combat perdu d'avance. Je lui en veux de ce que je considère, à tort, comme de l'orgueil mal placé. Avec Lison, ma sœur, on se dit tout le temps, on ne fera pas comme elle, mais il ne faut jurer de rien.
Merci beaucoup encore, Madame de Caunes.
Merci à vous.
J'espère que nos auditeurs seront ravis de découvrir cette facette inconnue de votre vie, et encore merci. Merci pour votre écoute, et on se dit au mois prochain pour une nouvelle librairie. À bientôt !